affinités électives. Une émission proposée par Canal Academy.
Chers amis, bonjour. Vous êtes bien à l'écoute de Canal Academy. Merci de votre fidélité. Dans notre émission de ce jour, nous allons faire un voyage dans plusieurs dimensions. Nous avons en effet l'immense joie et honneur de recevoir dans notre studio Yvonne Choquet-Brua. Madame, bonjour.
Bonjour, monsieur.
Lorsque je vous ai demandé, il y a un instant, la façon dont vous souhaitiez que je vous présente, vous m'avez dit « un être humain de sexe féminin ». Je vais me permettre de compléter quand même le tableau en précisant que vous avez été la première femme élue à l'Académie des sciences, que vous êtes à la fois mathématicienne et physicienne, et que nous vous recevons, car, c'est, je dis cela pour rassurer nos amis qui ne sont pas scientifiques, que vous venez de publier aux éditions d'Ile Jacob, un ouvrage titré « Une mathématicienne dans cet étrange univers », mais qu'il ne faut pas se laisser impressionner, car il est sous-titré « Mémoire », ce qui signifie que par la même occasion, nous allons aussi faire un voyage à travers la France, l'histoire de France, une longue vie dédiée au savoir, mais aussi à la transmission. Et c'est ce que nous allons essayer de faire aujourd'hui, transmettre non seulement votre amour des mathématiques et des sciences, mais aussi cette sagesse et cette capacité à sentir le sens de la vie qui est le vôtre, comme en témoigne votre ouvrage qui est extrêmement sensible et qui, je le précise, plaira à tout le monde, à ceux qui s'intéressent à l'histoire, à la littérature. Et d'ailleurs, c'est par là que je vais commencer. Votre livre est titré « Une mathématicienne dans cet étrange univers ». L'étrange univers aurait été là, quoi qu'il arrive, mais vous avez hésité longtemps dans la façon de l'aborder. Vous avez décidé d'être mathématicienne, mais à un moment, vous avez pensé faire de la philosophie ou de la littérature pour l'appréhender, cet univers si étrange. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi finalement ce choix des mathématiques ?
Les mathématiques ont une vertu, c'est que, à partir d'hypothèses, on arrive à des conclusions qui se formulent en termes mathématiques, bien sûr, mais en termes exacts. Tandis que si on fait n'importe quelle autre science, ou de la littérature, on n'arrive jamais à exprimer tout à fait sa pensée. Tandis qu'en mathématiques, les expressions, il y a des définitions, il y a des formules, c'est un langage universel.
Et pourtant, lorsque l'on vous lit, on découvre un être sensible qui a aussi des doutes, pas uniquement des certitudes, et qui chemine, qui est curieux des autres, qui tâtonne. Est-ce que c'est compatible finalement ? Enfin, on a une forme de surprise en vous lisant. On s'attend effectivement à quelqu'un de catégorique. Et tout votre jugement à l'égard des autres et de l'histoire de votre environnement est fait de tolérance, de compréhension. C'est surprenant.
Oui, je pense que c'est important. Il ne faut pas avoir d'a priori ouvert à la compréhension de toutes choses et des autres êtres humains en particulier.
Lorsque vous étiez jeune... Lorsque vous hésitiez justement entre les mathématiques, la philosophie, on sent que l'enseignement, la réception, la transmission des savoirs était d'une immense importance pour vous.
Est-ce que vous pouvez nous parler de cela ? Oui, bien sûr, ça a été... En fait, oui, j'ai été très, très sensible. J'ai eu des amis d'abord, chaque année, dans chaque situation... des amis privilégiés qui ont beaucoup compté pour moi. Et parmi mes professeurs, chaque année, et en gros, chaque année, un professeur privilégié. Quelquefois, il a duré plusieurs années, mais en gros, j'avais toujours quelques professeurs qui étaient pour moi plus essentiels. Ouais.
Être la première femme élue à l'Académie des sciences... ce n'est pas rien.
Non, mais enfin, c'est une chose qui... Enfin bon, bien sûr, j'étais content d'être élu à l'Académie, mais ça n'avait pas tellement d'importance pour moi. Je vous dis, c'est une chose... C'est comme maintenant, je suis grand croix de la Légion d'honneur. Bon, ben, c'est pas désagréable, mais c'est quand même très... Enfin, je vous dis, les êtres humains comptent plus pour moi. Et puis, en plus... D'autre part, étant une femme, vous savez, j'étais très féminine, qu'on m'a dit quelquefois. Donc, je ne désirais pas avoir l'air d'être plus forte qu'un homme. Les hommes n'aiment pas ça, d'abord. Donc, je n'ai jamais... Puis j'ai rencontré, par contre, beaucoup d'hommes qui avaient été impressionnés par leur père et qui, du coup, avaient l'impression qu'ils devaient prouver quelque chose. Moi, pas du tout. C'était plutôt le contraire. Je ne voulais pas prouver que j'étais une supérieure à qui que ce soit.
Ce qu'on ressent en lisant vos mémoires, c'est que cette élection à l'Académie des sciences, mais aussi toute votre trajectoire professionnelle, les recherches que vous avez menées, trouvent quand même leur source dans un milieu qui est celui de votre famille, d'une part. Peut-être que vous voudrez nous en parler. Mais ensuite, c'est celui de cette école de la Troisième République, avec ses exigences, ses caractéristiques propres, cette volonté d'élever. Est-ce que vous voulez nous en parler un petit peu de cette école-là, cette école d'avant-guerre qui,
ah oui,
qui
oui,
misait
oui.
quand même sur les êtres humains et sur leur potentiel.
En fait, c'était un peu douloureux quelquefois pour les bons élèves, parce que je sais que moi, j'étais nulle, pas au début, hein, quand j'étais vraiment enfant, j'étais plutôt en bout de classe. J'ai mis longtemps à apprendre à lire. Ensuite, dans mes premières années d'enseignement qu'on dit primaire maintenant, j'étais timide et j'étais maladroite. Donc, j'étais pas... D'ailleurs, j'ai été collée à l'examen d'entrée en sixième, comme je le dis d'ailleurs dans mes mémoires. J'étais jeune, il est vrai, mais enfin quand même... Non, j'étais pas du tout. Étant enfant, j'étais plutôt la maladroite, quoi. Mais après, quand je me suis mis à bien réussir, on se dit, il faut continuer. Je veux dire, si j'étais pas première, ma mère me disait, mais tu baisses. C'était pénible.
Toutefois, vous avez cultivé vos talents.
voilà. Donc, c'était une... Mais enfin, je n'ai jamais eu l'impression que le travail soit une chose pénible. Pour ça, j'ai eu de la chance, parce qu'il y a bien des métiers qui sont pénibles. Moi, le travail intellectuel, c'était un plaisir.
Et quel rôle ont joué vos parents dans ce déclenchement, dans ce déclic ? Parce que les professeurs, certes, vous en parlez beaucoup, mais oui. Vous parlez aussi beaucoup de vos parents. La façon dont ils ont suscité chez vous... n'ont pas cette vocation pour une voie déterminée, quoique on sent qu'ils ont quand même influé ici ou là, au moment des choix.
Oui, oui.
Comment ont-ils déclenché cela, ce goût du savoir, ce goût de l'apprentissage ?
Eh bien, en fait, c'est en partie parce que j'étais bonne. J'avais de bons résultats en mathématiques. Donc, d'ailleurs, je n'avais pas, quand j'ai passé après le baccalauréat, je n'avais pas envie de faire des mathématiques, j'avais envie d'être médecin. Ça me semblait plus vivant, plus proche, et puis ça m'intéressait. Mais donc, mes parents me l'ont déconseillé, tous les deux, disant que c'était pas un bon métier pour une femme, que c'était trop dur, que ça occupait trop. Puis enfin, les médecins femmes étaient encore plus mal vus que les professeurs femmes à l'époque. Donc, mon père m'a dit, fais une année de mathématiques supérieures, comme on disait, ou d'hypotope, et puis tu verras bien. Et puis là, j'ai eu de très bonnes notes partout, puis j'ai eu un prix au concours général. Donc, je me suis dit, ben, c'est peut-être ça qu'il faut que je fasse, puisque j'y réussis bien. Voilà. Puis j'aimais bien, en fait, parce que j'ai eu d'excellents professeurs de mathématiques dans l'enseignement secondaire, ce qui, malheureusement, n'existe beaucoup moins à l'heure actuelle. Je le vois sur les études de mes enfants, et petits-enfants surtout maintenant.
Alors, qu'est-ce qui leur manque ? Qu'est-ce qui est différent ?
Je trouve que c'est une catastrophe.
Pourquoi ?
C'est une catastrophe. Et je trouve que le manque de compétition est peut-être bon, mais ça décourage quand même les élites. Disons, il n'y a plus... on n'encourage plus les bons élèves. Au contraire, disons, on voudrait que tout le monde égale. Alors, tout le monde, les gens ne sont pas tous égaux. D'ailleurs, c'est pas que je trouve chacun que c'est supérieur. Chacun sa vocation. Mais tout le monde ne peut pas être mathématicien. C'est un goût particulier. Et vouloir qu'on fait des mathématiques pour tous, c'est une absurdité.
Écoutez, vous parlez inconvaincu, car moi j'ai beaucoup souffert qu'on veuille me les imposer.
Donc, comme j'avais de bonnes notes en mathématiques, ça m'a encouragé à effectivement me diriger vers là.
Vous avez parlé de vos parents qui vous ont effectivement déconseillé de devenir médecin, mais ce n'était pas seulement parce qu'ils pressentaient que vous pouviez être faite par les mathématiques, mais parce que la société n'était pas prête à accueillir une femme médecin.
Oui, oui.
Il y a quand même ça en filigrane aussi dans votre ouvrage, c'est qu'on
sent
que ces discours abstraits, disant la place des femmes dans la société aujourd'hui tout ça semble un petit peu de l'ordre des grands discours. À travers votre ouvrage, ça devient très concret.
Oui, le monde a vraiment changé à ce point de vue-là. Moi, d'ailleurs, j'en ai profité en un sens, parce que j'ai été élue à l'Académie. Je pense que je ne dis pas que je... Il y a sûrement, comme partout, des mathématiciens qui me sont supérieurs, mais il y en a d'autres aussi qui sont moins bons, qui ne sont pas des mathématiciens, tout simplement, disons. Mais je pense que j'ai profité du fait que c'était mûr, disons, de prendre une femme à l'Académie. Je ne considère pas que j'étais la plus mauvaise des mathématiciens possibles. Mais je pense que moi, je suis arrivée à un tournant favorable. Mais par contre, j'avais senti avant le contraire, je veux dire. Par exemple, même à l'université, je suis restée longtemps sans être dans les classes exceptionnelles, alors que je voyais mes collègues, qui étaient, à mon avis, pas plus forts que moi, passer en classe exceptionnelle. Donc, il y avait une certaine... Mais d'un autre côté, moi, j'avais de la chance, si on peut dire, parce que j'avais un père qui était un grand physicien, qui est mort pendant la guerre, comme je le dis. Enfin, il a été déporté parce qu'il s'opposait à l'occupant. Il n'a pas pris un fusil, parce que d'abord, ce n'est plus son âge. Mais enfin, il a fait de son mieux pour aider tous ceux à survivre, tous les uns qui étaient en danger. Et de lui-même, il en est mort, d'ailleurs. Mais par ailleurs, quand même, il avait des collègues et amis. Donc, ça m'a quand même fait un soutien. Je ne pense pas que c'est pour ça que j'ai été reçue première à CF, puis première à l'agrégation, et puis la première femme à l'Académie. Mais malgré tout, ça a été un soutien pour moi, par exemple quand je me suis présentée à l'Académie. Il y avait certains académiciens qui avaient été collègues de mon père, et c'était un plus pour moi. Et d'ailleurs, mon grand patron... que j'admire toujours, et mort bien sûr malheureusement maintenant, Jean Leray, c'est pour ça qu'il s'est intéressé à moi au départ. J'étais allée suivre son cours, où il y avait très peu d'élèves, parce que c'était un cours très avancé qui ne donnait même pas de diplôme, mais enfin j'étais allée le suivre parce que ça m'intéressait. Et Leray nous a demandé nos noms, on était peu dans la salle de classe. Et quand je lui ai dit que je m'appelais Yvonne Bruat, il m'a dit « Ah, Bruat, est-ce que vous êtes parente de Georges Bruat ?» Ben, je dis « Je suis sa fille. » Et aussitôt, il s'est intéressé à moi. Il était de l'admiration pour mon père et de la sympathie pour lui du fait de sa mort tragique. Donc, il s'est intéressé à moi.
Votre papa, qui n'était toutefois pas mathématicien, mais physicien.
C'était un mathématicien. Oui. Mais moi aussi, finalement, comme c'est dit sur mon livre.
Oui, mais alors, j'étais étonné.
C'est la physique
qui
m'intéressait. Ce qui m'intéressait, c'était de comprendre l'univers. Mais maintenant, il devient tellement compliqué que c'est vraiment difficile.
Oui, mais alors, c'est assez étonnant parce que, effectivement, lorsqu'on on lit votre biographie sur la quatrième de couverture, on lit mathématicienne et physicienne. Mais tout au long de l'ouvrage, on explique qu'en fait, c'est pas du tout la même chose. Mathématicien et physicien, est-ce que vous pouvez nous éclairer un petit peu, éclairer nos auditeurs qui sont un peu plus littéraires et qui...
C'est-à-dire à l'heure actuelle, autrefois c'était pareil, d'ailleurs la philosophie, c'était la, toutes les sciences. Hein, les physiciens et les mathématiciens, c'était Archimède, c'était un physicien, c'était un mathématicien. Pythagore, c'était un mathématicien qui a s'intéressé à la haut. Elle a été un premier à penser que la Terre devait tourner. Enfin, la science, autrefois, n'était pas aussi divisée. Galilée, il faisait tomber les... Enfin, il paraît que c'est pas vrai, d'ailleurs, que c'est une légende. Il faisait pas tomber les objets de la tour de Pise. Mais enfin, disons qu'il faisait tomber les objets de la tour de Pise. Oui, dans quoi ? Il a formulé la loi mathématique de l'apesanteur. À l'heure actuelle, ce n'est plus possible. Les mathématiques se sont beaucoup diversifiées, compliquées, et c'est devenu un monde en soi. Quoique bon, c'est un problème philosophique, ça aussi. Est-ce que les mathématiques existent ?
Bon. Mais c'est une vraie question. Je vous pose la question. Est-ce que les mathématiques existent ?
Oui, mais
permettez-moi de vous poser la question.
Ben, elles existent, bien sûr. Mais enfin, c'est une création quand même de l'esprit humain. Mais d'ailleurs, le monde entier est une création de l'esprit.
C'est ce que j'allais vous dire en philosophe ou en littéraire.
Maintenant, donc... mais enfin, la physique, par contre, il ne suffit plus de faire tomber des objets de la tour de Pise. Si vous avez eu l'occasion d'écouter les expériences récentes qui ont montré, observé les ondes gravitationnelles, c'est un travail considérable, difficile... moi, j'ai fait un effort pour voir de quoi il s'agissait. Et je sais vaguement, j'ai quand même quelques connaissances en physique. Hein, je suis quand même. Donc, mais c'est le travail expérimental est devenu quelque chose d'extrêmement complexe. Qui n'est donc pas. Moi, je suis physicienne de cœur, disons. Mais bien sûr, j'ai perdu le fil des. Je ne suis incapable de suivre les détails d'une expérience, des expériences qu'on fait à l'heure actuelle.
Parce que chacun se spécialise.
Oui, d'ailleurs, beaucoup de physiciens ne se comprennent pas non plus dans ce que fait une discipline voisine, je veux dire. Tout s'est tellement complexifié. On n'est plus possible d'être un philosophe qui connaît toutes les sciences. Donc moi, il s'est trouvé finalement que d'abord, je ne suis pas doué pour l'expérimentation. Ça demande des qualités de patience, en fait, que je n'ai pas.
Vous dites à plusieurs reprises, d'ailleurs...
Si, je ne suis pas très adroite non
oui,
plus.
Oui, c'est ce que j'allais dire. Oui, je ne pouvais pas parce que j'étais maladroite, des choses comme ça. Enfin, oui. C'est-à-dire que ça tient de l'artisanat aussi.
Oui. Puis enfin, j'avais une mauvaise... J'ai toujours, d'ailleurs, je n'ai pas la vision bigoculaire. C'est donc gênant pour certaines expériences.
Alors, vous disiez que les mathématiques sont un univers en soi. Alors, dans cet univers, il y a plusieurs galaxies.
Il y a des mathématiciens qui pensent que les mathématiques existent. Mais de toute façon, je ne sais pas ce que ça veut dire exister. Qu'est-ce qui existe ? Surtout, plus on étudie l'univers maintenant, plus on se rend compte que...
Que la foi, c'est le doute.
C'est difficile. Même nous-mêmes, comme si vous connaissez mon confrère et ami Thibaut Damour, il a écrit un livre excellent. Qui s'appelle « La multitude, entretien sur la multitude du monde ». Nous-mêmes, nous sommes une somme d'états quantiques. Donc, finalement, qu'est-ce qui existait, hein ? Indépendamment que nous n'avons conscience de nous-mêmes, que de nous-mêmes, ce qui est une chose très préoccupante, je trouve d'ailleurs, un grand problème qui m'a toujours préoccupé depuis mon enfance. Nous n'avons conscience que de nous-mêmes.
Oui, c'est là-dessus que votre livre s'ouvre, d'ailleurs. Vos parents vous accusent de faire du solipsisme. Voilà un solipsisme qui vous a mené quand même à vous lancer dans la découverte de l'univers. Comme quoi, il ne faut jamais désespérer quand même de l'égocentrisme
oui,
des enfants.
Finalement, je sors là à l'instant d'une conférence, d'un programme, enfin d'une série de conférences, que maintenant on a observé, je ne sais pas combien, 2 millions de galaxies. Alors du temps de... Enfin, autrefois, on ne connaissait que le système solaire. Ensuite, on
et ça donnait déjà le vertige.
Ah, c'était déjà, oui.
Oui, c'était déjà vertigineux.
Oui. Enfin, le soleil, on le connaissait depuis longtemps quand même. Hein. Mais la Terre et le soleil, oui. Mais on ne connaissait pas les autres. La Lune, on croyait que c'était une petite lampe pendue dans le ciel. Mais ensuite, on a agrandi nos connaissances. Dans ma jeunesse, il n'y avait qu'une galaxie, la Voie lactée. Hein. Ensuite, enfin, je suis très mauvaise en histoire. Hein. Je m'intéresse à l'histoire en général, mais l'histoire des sciences en particulier, je suis très mauvaise. Donc, je ne sais pas vraiment. Mais enfin, je crois que dans ma jeunesse, on ne connaissait qu'une galaxie. Ensuite, on s'est aperçu qu'il y en avait d'autres. Et alors maintenant, ça devient des... Vraiment, ça donne...
L'infini est réellement infini.
Oui. Les mathématiciens disent que l'infini n'existe peut-être pas. Ça, c'est la théorie des ensembles, ça. Très intéressant, d'ailleurs. Enfin, c'est...
Écoutez, je vous laisse poursuivre. J'ai avoir du mal à vous donner la réplique.
Quand on étudie aussi, ce n'est pas ma spécialité, ça me dépasse, mais quand même, j'ai la curiosité de voir justement quels sont les fondements des mathématiques. Eh bien, il y a nos mathématiques, celles que nous faisons, celles qui reposent sur un certain nombre d'axiomes, mais on pourrait les remplacer par d'autres. Il y aurait d'autres mathématiques possibles. Il y a eu des essais, d'ailleurs. Par exemple, supprimer l'infini. Que l'infini n'existe pas, il n'y a pas d'infini. Mais on s'est aperçu que ça ne marchait pas bien. Hein. C'était pas fécond. Et on n'arrivait pas à développer et obtenir, en déduire d'autres résultats. Oui.
C'est un outil comme un autre.
Donc, maintenant, il y a une série d'axiomes qui sont les axiomes du choix, l'axiome de Zermelo, mais bon, c'est presque, je dirais pas que c'est nécessaire, mais en tout cas, c'est très utile pour développer ensuite les mathématiques.
Vous êtes d'accord avec votre papa qui disait la métaphysique, ça rend fou.
Ben oui, mais c'est bien intéressant quand même. Ben lui, c'était un homme raisonnable, vous voyez. Donc.
Oui, et puis après
lui, c'était un vrai physicien. Un vrai physicien. Je ne dirais pas que je ne crois pas à la réalité. Mais enfin, bon, disons que je ne crois pas qu'on puisse la connaître. Tandis que lui, c'était un vrai physicien. Je ne dis pas qu'il. Mais c'était un homme fort intelligent. Donc peut-être bien qu'il pensait aussi que peut-être la réalité n'existait pas.
Mais qu'il voulait faire comme si elle existait.
Voilà, il préférait les choses qu'on pouvait observer, effectivement. Lui, c'était un expérimentateur, en fait. Mais il aimait bien les mathématiques. Il était un esprit logique et tout à fait capable d'utiliser les mathématiques qui lui semblaient utiles.
Alors, dans cette galaxie des mathématiques qui nous reste bien mystérieuse,
oui.
Nombre d'entre nous, vous distinguez les stratèges et les tacticiens.
Oui,
est-ce
ça,
que vous pouvez nous expliquer
ça? C'est mon époux, Gustave Choquet, qui a dit ça dans un petit article. Bien, les stratèges, c'est ceux qui inventent des nouvelles mathématiques. J'invente, je trouve des théorèmes éventuellement, donc j'utilise des mathématiques. Mais je les utilise telles que notre logique ordinaire les connaît.
C'est que ce raisonnement, en fait, comme vous le disiez tout à l'heure...
C'est une distinction, c'est comme tout, c'est très difficile de définir. Hein.
Le philosophe raisonne dans sa langue.
Les stratèges sont tacticiens à l'occasion, les tacticiens sont quelquefois stratèges. Donc ce sont des... comme tout mot, il n'y a pas, à moins que ce soit un mot très concret, les mots ont des significations difficiles. Quand vous essayez de traduire, par exemple, du français en anglais, vous voyez qu'un mot français n'a pas de traduction. Parce que... Même le mot sympathique, tenez, c'est une chose qui me gêne beaucoup dans mes traductions. Parce que moi, c'est un mot que j'utilise souvent sur les gens que je connais, que je rencontre. Celui-là est sympathique, celui-là n'est pas sympathique. Ça n'existe pas en anglais, le mot sympathique.
Oui. Les mathématiciens raisonnent avec leur propre langage. Et chacun raisonne dans sa langue.
Oui, alors il y a nice, il y a kind, il y a friendly. Ça veut dire gentil,
aimable, oui.
Amical. Enfin, sympathique, c'est autre chose. Voilà, ben... Tandis que les mathématiques, si vous écrivez petit x au carré, eh ben, ça veut dire x fois x. C'est facile.
Oui, mais que veut dire x fois x?
x, c'est autre chose. X, c'est un symbole mathématique que l'on manipule. Et qui représente 6 ou ça, hein, ça. Ça peut avoir une valeur. Ça peut être 2, ça peut être 3. Ça peut être une galaxie. Mais enfin, quand on l'écrit, on sait ce que c'est. Enfin, une galaxie, on C'est pas ce que c'est, hein. Je dis une galaxie, c'est peut-être un peu... Enfin, disons, l'ensemble de propriétés que l'on utilise dans le raisonnement qu'on est en train de faire.
C'est donc bien un monde en soi. Lorsque vous avez choisi ce titre, une mathématicienne dans cet étrange univers...
Moi, je n'avais pas tout à fait choisi ça.
Vous aviez choisi quoi?
Mais l'étrange univers, oui.
Ah, voilà.
Oui, oui. Bah, c'est quand même un peu ma spécialité.
Bah, oui.
Hein. Donc, et puis enfin, c'est vrai que l'univers est étrange. Longtemps, j'ai prétendu que j'étais physicienne ou physico-mathématicienne ou mathématical physiciste, comme on dit en anglais. Mais Thibaut Damour, il m'a convaincu finalement que non, je n'étais pas physicienne. Bon. Que j'étais mathématicienne. Eh bien, je pense qu'il a raison, en fin de compte.
Au fil de l'ouvrage, on se rend compte aussi que les questions spirituelles, voire religieuses, prennent une petite place. Mais c'est par petites touches, vous l'évoquez, comme ça, bah, d'inquiétude ou de... Voilà.
Oui, ben, bien sûr, c'est le but de la compréhension de l'univers, hein, quand même, hein, et nous-mêmes.
Et mais... donc, ça semble presque antithétique, c'est terrible, mais de dire cela...
En fait, pendant un temps, comme je le dis d'ailleurs dans mon livre, je ne dirais pas que je m'étais convertie, puisque j'étais catholique mes parents n'étaient pas croyants, mais enfin, j'étais catholique de tradition. On était baptisés, on faisait notre première communion.
Catholiques sociaux, quoi, au sens social du terme.
Mon premier mariage, je me suis mariée à l'église. Mais... Oui. Mais pendant un temps, je me suis convertie, si on peut dire.
Mais c'est vrai qu'on a souvent l'habitude d'opposer une sorte de compréhension scientifique et matérialiste de l'univers, justement, parce que c'est la question.
Oui.
Et de fait, quelle autre question? Que faisons-nous ici? Dans quoi sommes-nous? C'est la question ultime.
Oui.
Puis nous... et une vision fondée sur la foi. On sent qu'au fil du livre, chez vous, les choses s'entremêlent, les doutes et les questionnements deviennent... presque similaire avec des réponses qui sont tantôt d'ordre mathématique ou scientifique et tantôt de l'ordre de la foi. Vous pouvez nous expliquer cette façon de mêler les genres ou comment cela s'est-il produit?
Je pense qu'il y a peut-être des gens qui ont des... J'ai une fille aînée qui est très... spiritualiste, écologiste, enfin, quoi qu'elle est mathématicienne aussi, hein, elle a fait des études de mathématiques, elle a même enseigné les mathématiques dans un lycée. Mais par ailleurs, elle croit à la communication de pensée, à les messages de l'au-delà, et elle prétend qu'elle en a. Moi, non, j'ai jamais eu aucune révélation. Mais peut-être il y a un autre monde, et peut-être il y a il faut bien qu'il y ait quelque chose, enfin.
Oui, et puis si le monde tel qu'on le décrit par la science repose sur une convention,
oui.
On peut tout à fait imaginer que la même réalité soit décrite avec une autre convention, c'est cela?
Oui, 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 c'est ce que je dis quelquefois, ça n'est pas opposé à la science, comme quand on dit que la télépathie, c'est très possible.
Avec d'autres axiomes.
Oui, c'est très possible. Maintenant, on va commander les autos là, par la pensée. Enfin, il paraît qu'on vous mettra des électrodes dans des trucs sur la tête. Mais enfin, bon. Donc, par la pensée, peut-être. C'est...
Écoutez, si ça aboutit à utiliser la pensée juste pour conduire son automobile, arrêtons, ça ne vaut pas le coup.
Je partage un peu votre idée. Mais c'est effrayant, je trouve, à vrai dire. Oui. C'est effrayant, mais à l'heure actuelle, quand même, Internet, c'est une révolution que j'ai connue sur le tard, dirais-je. Moi, enfin, dans ma jeunesse, dans mon enfance, même il n'y avait même pas la télévision. Le téléphone, ça a commencé à exister, mais pas dans mon enfance, mais quand j'étais puis pendant la guerre, tout a été un peu paralysé. Mais ensuite...
Tout est arrivé très vite ensuite.
Oui, c'est arrivé très vite. Puis le téléphone, ça va quand même par les fils électriques. Mais même l'électricité, c'est une découverte. tout ce qu'on a fait avec. Donc pourquoi pas la télépathie aussi, je veux dire, c'est peut-être tout simplement aussi quelque chose qui a une existence matérielle. D'ailleurs, l'électricité, est-ce que c'est matériel? Je veux dire, il y a les photons, mais les photons, c'est quelque chose de bien complexe, hein, bien étrange, hein. C'est une onde, c'est un particule, c'est...
Pour moi, c'est de l'ordre de la magie, alors je vous approuve bien volontiers. Pour moi, la radio, ça reste de l'ordre de la magie.
Non, mais là, les mathématiques, vraiment, je me suis bien amusée, vous voyez, parce que il y avait des théories au besoin ou les commencements de théories, mais la relativité, c'est quelque chose quand même, c'était quelque chose de nouveau. Et donc, il fallait tout transformer, si vous voulez, toute la mécanique classique, toutes les équations de la mécanique classique, il fallait essayer de les formuler en acceptant les principes de la relativité restreinte puis générale. Et là, c'est intéressant. Puis enfin, c'est quelque chose de concret. Enfin, quelque chose qui
précis. Qui résiste, oui.
Quelque chose de précis. Donc, on cherche des équations qui vont représenter des phénomènes réels qui ont déjà des représentations, mais peu satisfaisantes. Donc, utilisant les principes de la relativité, on regarde, enfin ce que j'ai fait surtout, c'est regarder comment changer ces équations pour qu'elles conservent leur validité et qu'en même temps elles acceptent les principes relativistes. Eh bien, j'ai réussi un certain nombre de fois et c'était vraiment agréable. Puis enfin, c'est quelque chose que j'allais dire de vrai.
De tangible. Enfin,
de vrai, étant donné on a des hypothèses, on cherche à montrer, par exemple, qu'un phénomène est causal, après qu'on a défini la causalité au sens relativiste. Et puis, bon, on prend des équations, bon, elles ne sont pas causales parce qu'elles ont été écrites sous forme classique. Vous cherchez dans votre tête comment vous allez les transformer, éventuellement vous trouvez, et vous constatez que ça marche. C'est formidable.
Donc, une équation peut devenir tangible.
C'est ça. C'est ça. Les fluides chargés, par exemple. Les fluides avec une charge électrique. Ça, on avait des équations des fluides non chargés, classiques. On avait les équations de l'électromagnétisme, bien connues. Mais les deux n'étaient pas mis ensemble.
Vous y êtes parvenu.
Oui. Donc, c'était formidable.
Il n'en reste pas moins que si je prends la dernière page de votre ouvrage, dans l'épilogue, bien entendu, vous écrivez ceci. La science répond parfois au comment, elle ne répond pas au pourquoi. La science ne nous a pas éclairés sur nos fins dernières. La constatation, magnifiquement exprimée dans cette pensée de Blaise Pascal, est toujours vraie. Et si vous me permettez, donc je vais lire cette citation de Blaise Pascal que vous nous livrez à la fin de votre ouvrage, et qui est superbe.
Eh bien oui, il avait tout dit.
Je ne sais qui m'a mis au monde, ni ce que c'est que le monde, ni que moi-même je suis dans une ignorance terrible de toute chose. Je ne sais ce que c'est que mon corps, ni que mes sens, ni que mon âme, et cette partie même de moi qui pense ce que je dis, qui fait réflexion sur tout et sur elle-même, et ne se connaît pas non plus, que le reste. Je vois ces effroyables espaces de l'univers qui m'enferment, et je me trouve attaché à un point de cette vaste étendue, sans que je sache pourquoi je suis plutôt placé en ce lieu qu'en un autre, et pourquoi ce peu de temps qui m'est donné à vivre m'est assigné à ce point plutôt qu'à un autre, de toute l'éternité qui m'a précédé, et de toute celle qui me suit. Je ne vois que des infinités de toutes parts qui m'enferment comme un atome et comme une ombre qui ne dure qu'un instant sans retour. Tout ce que je connais est que je dois bientôt mourir, mais ce que j'ignore le plus est cette mort même que je ne saurais éviter. Merci beaucoup et à bientôt, j'espère. Merci. Thank you.